Radio Kapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Oponde. Après la pluie diluvienne d'hier dimanche, inondations, érosions et voies coupées ont paralysé plusieurs communes de la capitale Kinshasa. Habitants et autorités locales appellent à accélérer les travaux d'assainissement. Au Nord Kivu, plus de 900 000 enfants de moins de 5 ans sont attendus pour une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite, avec un accent particulier sur la détection des cas de paralysie flasque aiguë. L'invité du journal est Luc Loutala, coordonnateur de la CIMOCEL. Il revient sur la télé de Kinshasa où des leaders d'opinion ont été formés aux fondamentaux de la démocratie et aux stratégies de communication en vue des réformes électorales de 2028. Bonjour à tous. La violente pluie qui s'est abattue hier dimanche sur Kinshasa a provoqué d'importants dégâts matériels. Plusieurs maisons ont été inondées, empêchant les familles de se mouvoir comme d'habitude. Dans les communes de Barumbu, Kinshasa et Lingwala, par exemple, plusieurs maisons ont été inondées et les principales voies d'accès de ces municipalités sont restées sous les eaux plusieurs heures, notamment Kabambar, Croix-Rouge, Kabinda, Wileri, Nyangwe, Ex-Flambeau et Ex-Bokassa. Les habitants, interrogés par Radio Okapi, appellent le gouverneur Daniel Bumba à accélérer les travaux d'assainissement de la ville. Josué Kefebe, reportage.
La commune de Limété a enregistré des inondations dans plusieurs quartiers, nous dit sa bourgmestre. Beaucoup de biens abîmés dans les ménages. Sous la pluie, certaines avenues ressemblaient aux rivières. Par endroits, des tables des vendeurs des marchés pirates ont été emportées par la pression de l'eau. Les chefs des quartiers sont fatigués d'envoyer des rapports, affirme Madame Alamba Feza. Mais que faire, dit-elle? La prévention aurait été d'étirer les cours d'eau, ce qui n'a été fait que très partiellement faute des moyens. Elle condamne aussi la présence des constructions anarchiques qui érigent la population sur les lits des rivières. À Selimbao, il y a progression des érosions sur l'avenue Kutupanzu au quartier Bajading, sur l'avenue Parlement au quartier Kaping et aussi au quartier Mbala et Kimbembe. On compte quelques maisons englouties et des dégâts sur des avenues. Progression des érosions aussi dans la commune de Mongafula au quartier Mazamba, Mamayemu et Kibondo. Les dés de la route Kimwenza compliquent davantage la situation avec cette pluie. Tout ce qui a été fait avant dans les cadres de la lutte a été emporté par les dernières pluies. Selon les bourgmestres, des ingénieurs défilent sur place pour des études en vue de répondre des travaux. Célestin Lumbu ajoute que la pluie a aussi sapé les travaux des salons intensifs réalisés samedi. Elle a charrié beaucoup d'immondices qui se trouvent à nouveau dans les caniveaux.
Si les Kinois appellent le gouverneur à accélérer les travaux d'assainissement, il existe d'autres communautés en République démocratique du Congo dont la vulnérabilité est exacerbée non pas par les intempéries, mais par l'insécurité grandissante. C'est le cas des peuples autochtones du sud de Kivu dans le territoire de Calais. L'escalade de l'insécurité dans la région a entraîné la suspension des projets de développement et de l'aide humanitaire, plongeant cette population dans une extrême précarité. Jackson Mali Abouana.
Depuis le mois de février, plusieurs projets essentiels sont à l'arrêt dans les territoires de Calais. L'association des autochtones de Kalongé s'est dit préoccupée par cette situation qui prive des familles déjà fragiles de leurs moyens de subsistance. Pascal Ndakobajira Kulimushi, secrétaire de cette structure, dresse un tableau inquiétant de leur réalité.
Nous, peuple autochtone pygmée, vivons dans une vie vraiment misérable, très critique. Vous voyez que les pygmées, depuis des années, n'ont pas de parcelles, n'ont pas de chats, n'ont pas d'habitat, n'ont pas de quoi mettre sous la dent. La vie est difficile.
Cette organisation alerte également sur l'aggravation de la malnutrition dans de nombreuses familles et appelle les organisations humanitaires à reprendre d'urgence leur intervention.
Nous lançons un cri d'alarme afin que vraiment vous puissiez appuyer nos organisations, appuyer nos activités et pour que nous ayons aussi d'activités génératrices de revenus ou AGR.
L'association des autochtones de Kalongé estime que leur situation actuelle est aussi la conséquence lointaine de leur expulsion de leur ancien habitat, l'actuel parc national de Kahuzi-Biega sans aucune indemnisation.
Dans le sud Ubangi, c'est l'absence totale de routes asphaltées qui freine le développement. Des véhicules ont du mal à circuler entre Akula et la ville de Gemena, qui elle aussi manque de voirie urbaine. Témoignage de maître Serge Linzabé, président national du groupe Linzabé pour la mobilisation culturelle du sud Ubangi. Il plaide pour la construction des routes tout en appelant la première ministre Judith Suminwa à visiter cette province afin de comprendre comment vivent les populations de ce coin du pays. On écoute maître Serge Linzabé au micro de Jude de Mister Bilanda.
La route est très dégradée. À Gemena, la voirie urbaine est inexistante. Il y a de la poussière. Les enfants tombent malades. Il n'y a aucun kilomètre asphalté dans la province du Sud-Ubangi, même dans son chef-lieu qui est la ville de Gemena. Pouvez-vous imaginer que pour une route de moins de 200 kilomètres, Gemena à Kula, des véhicules font 2 semaines, voire plus? Et c'est vraiment une situation désespérée. Qu'on nous donne ne fût-ce que 10 kilomètres d'asphalte, ne fût-ce que dans la ville de Gemena, pour essayer de donner de l'espoir à cette ville. Nous ne demandons pas beaucoup, ne fût-ce que 10 kilomètres d'asphalte pour aider la ville. Même si le gouvernement n'a pas les moyens de construire immédiatement, mais si la première ministre arrive à Gemena, qu'elle palpe la situation, ce serait le début de la solution de notre problème.
Au Congo central, le problème vient plutôt de la mauvaise gestion ou de la saturation des infrastructures existantes. À Matadi, les conducteurs de bus, de taxis et les voyageurs en provenance de Kinshasa vers Matadi, Boma et Mwanda déplorent d'importants embouteillages sur la route nationale numéro 1 dès l'entrée de la ville. Ils pointent du doigt les châssis porte-conteneurs dont le mauvais stationnement bloque la circulation. Reportage d'Élise Gavira depuis Matadi.
Dès l'entrée de la ville de Matadi, l'on peut observer une longue file de gros camions garés sur le bord de la chaussée. Les bus, taxis et même les motards se retrouvent bloqués. Il peut se passer des heures avant de sortir de ces embouteillages et entrer enfin dans la ville. Gueuleur Vangou, un voyageur habitué de cette route, nous partage son expérience.
Il faut d'abord réguler la route. Il faut des engins pour enlever tous les véhicules qui font des accidents.
Pour Guilain Panzou, conducteur d'un châssis porte-container, c'est à tort qu'ils sont tenus pour responsable de ces embouteillages.
S'il n'y a pas d'embouteillage, les gros véhicules passent librement, mais la route est trop petite. Puis les motards ne respectent pas les codes de la route.
Gims Bunga, motard dans la ville, n'est pas du tout de cet avis.
Ce sont les chauffeurs des gros véhicules qui créent les embouteillages.
David Kabata, chauffeur taxi, estime pour sa part que la responsabilité est partagée.
La route est trop petite, oui, mais nous devons, nous, les chauffeurs, avoir la conscience. Les policiers de roulage viennent chercher de l'argent au lieu de réguler la circulation.
Fatigués de la situation, plusieurs voyageurs de Boma et Mwanda se retrouvent contraints à prendre des motos pour entrer dans la ville de Matadi ou avancer pour continuer leur voyage. Depuis Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Changeons de chapitre à présent. Dans le domaine de la santé publique, au Nord Kivu, plus de 900 000 enfants de 0 à 59 mois sont attendus dans les zones de santé de la partie Grand Nord de la province pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite. L'annonce a été faite samedi par le médecin-chef d'antenne du programme élargi de vaccination antenne de Butembo. Le docteur Bernardin Kasereka ajoute que pour cette année, un accent particulier sera mis sur les enfants victimes de paralysie flasque aiguë, il le dit dans cet extrait choisi par Marc Marofimbo.
Nous allons aussi renforcer la surveillance épidémiologique qui consiste à rechercher les cas de paralysie flasque aiguë qui peuvent être retrouvés dans les ménages. Avec la stratégie porte-à-porte, nous savons que nos relais communautaires et d'autres personnes qui vont nous aider pour passer dans les ménages vont nous aider à récupérer tous ces enfants-là et à déclarer les cas de paralysie flasque aiguë qu'on va retrouver dans les ménages. La paralysie flasque aiguë voudrait dire que l'enfant était en train de marcher correctement ou de ramper correctement, mais subitement, l'enfant ne parvient plus à marcher, ne parvient plus à ramper. Mais l'enfant qui était en train de bouger ses membres, subitement, l'enfant perd cette mobilité des membres. Et ce sont les enfants que nous allons aussi rechercher dans les ménages pour que nous puissions évaluer notre travail de vaccination pendant tout ce temps que nous sommes en train de travailler. Si nous retrouvons, on va prélever les échantillons chez eux que nous allons envoyer au laboratoire pour rechercher si ces paralysies ont été dues au virus variant ou bien à un autre virus paralysant. Nous sommes en train d'attendre plus de 900 700 enfants pour cette phase de campagne. Donc, ce sera porte à porte pour qu'on récupère tous tous les enfants, déplacés ou pas, doivent être vaccinés pendant la campagne de vaccination.
Rappelons que le Grand Nord Kivu comprend les territoires de Beni, de Lubero, les villes de Beni et de Butembo. Dans la province du Olomami, la situation sanitaire évolue plutôt positivement. La tendance du choléra est à la baisse dans le territoire de Bukama. Information confirmée vendredi par le médecin chef de zone de santé. Il rassure que les intrants de prise en charge sont disponibles. Il indique que la zone de santé de Bukama est située au bord du fleuve Congo et environ 90% de la population consomme l'eau du fleuve, ce qui explique la présence de cette maladie dans la zone. Cette zone de santé a enregistré 5 décès et plus de 70 cas de choléra. Le point avec Paul Amunanga.
Les médecins chefs des zones de santé de Bukama indiquent que la zone de santé notifie de moins en moins de cas. La tendance était à la hausse pendant les fortes pluies qui se sont abattues dans la zone depuis le 15 novembre dernier, indiquent des sources locales. Les autorités du territoire affirment que pour le moment, la situation est sous contrôle. Selon l'administrateur du territoire de Bukama, le choléra est désormais maîtrisé après plusieurs semaines d'alerte. Il précise que plus de 70 cas de choléra ont été notifiés avec 3 décès au centre et 2 décès hors du centre. Des sources locales précisent que les victimes du choléra enregistrées en dehors du centre étaient des voyageurs. Les médecins chefs des zones de santé de Bukama rassurent que les intrants pour la prise en charge des malades sont disponibles. Le docteur Étienne Numbi précise que les malades contaminés sont guéris et la plupart ont déjà regagné leur famille. Il souligne que l'eau du fleuve consommée par la population est chlorée, cependant la quantité du chlore est insuffisante. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Alors que le choléra régresse à Bukama dans le Haut-Lomami, de nouvelles préoccupations émergent ailleurs dans le domaine de l'alimentation. Dans la ville de Goma, la surconsommation des suppléments alimentaires, dit plan Pi, inquiète les spécialistes en nutrition. Selon eux, la commercialisation de ces produits représente un danger pour les consommateurs car ils sont destinés exclusivement aux personnes souffrant de malnutrition. Le docteur Emmanuel Kingié, responsable du cluster nutrition au sein de l'ONG MEDES au Nord Kivu, explique les conséquences auxquelles s'exposent les personnes qui s'adonnent à cette pratique. Il a été joint au téléphone par Rafik Nzita.
Lorsqu'une personne en bonne santé consomme tout ce qui est les suppléments thérapeutiques, ça va être stocké sous forme de glucides, sous forme de lipides, sous forme de vitamines liposolubles et sous forme de minéraux au niveau du foie. Il y aura une surcharge dans l'organisme avec comme conséquence surpoids. Parfois obésité. Ça peut se transformer en dépôt d'athérome, créant des résistances dans la circulation sanguine. Et cela peut créer des maladies cardiovasculaires. Il y a aussi des maladies chroniques, diabète, et lorsqu'il y a un dysfonctionnement du système cérébral, non-absorption de glucose au niveau du sang, d'où on aura peut-être des diabètes. Des personnes qui développent des tachycardies, donc des palpitations à tout moment. Toute personne qui prend ces intrants nutritionnels doit savoir que est en train de t'empoisonner parce que ça va créer des réserves au niveau organique et ces réserves vont se développer soit dans les muscles, ça va se stocker au niveau du foie, les maladies rénales et ça va même altérer, affaiblir même le système immunitaire.
Ici à Goma, le danger est dans l'abus d'aliments thérapeutiques, l'usage des substances beaucoup plus nocives met en péril l'ordre public dans d'autres villes de la RDC. À Kinshasa, les autorités de la commune de La Chopo ont décidé de prendre des mesures fortes pour lutter contre l'insécurité liée à la consommation de drogues et alcool. Face à l'approche des festivités de fin d'année, la bourgmestre a émis une interdiction stricte de la vente des boissons fortement alcoolisées, du chanvre ainsi que des jeux de hasard et du tapage nocturne afin de garantir la quiétude des habitants. Mariam Batamane a été joint par Pepe Lissungi.
La commune de La Chopo est l'une des communes de la ville de Kisangani et il y a des cas d'insécurité et on a constaté que la consommation de ces chanvres-là et puis les boissons comme appelé zododo, des effets secondaires conduisent certaines personnes à commettre des bavures, entre autres la criminalité, également des vols mains armées, raison pour laquelle comme autorité communale, nous avons la mission de protéger la population et ses biens, également de prendre des mesures sécuritaires et vous savez comme à l'approche des fins des festivités d'année, on a réussi tellement le taux d'insécurité, raison pour laquelle on a voulu lancer l'opération en cette période. Nous allons travailler avec des instances judiciaires pour avoir des mandats de perquisition et les récalcitrants et des endroits où on voit des odeurs. On va confisquer ces produits-là. Une fois nous avons en possession de ces produits, la prochaine étape, ça sera l'incinération. Et puis, sur les auteurs qui vendent ces produits-là seront déférés devant la justice.
Actualité internationale. Au Bénin, après l'annonce des militaires l'ayant démis de ses fonctions, le président Patrice Talon s'est exprimé hier dimanche à la télévision nationale. Il a indiqué que cette forfaiture ne restera pas impunie et que la situation est sous contrôle. Tôt le matin, des mutins se sont dirigés vers son domicile et le palais présidentiel. Des tirs ont été entendus, une douzaine de militaires ont été arrêtés d'après des sources sécuritaires. La CDAO annonce déployer des soldats de la force en attente après cette tentative de coup d'État.
L'invité.
Des dizaines de leaders d'opinion et d'expression viennent de clôturer à Kinshasa l'atelier sur la maîtrise des fondamentaux de la démocratie. À l'initiative de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simoncelle, cette session de 3 jours a voulu faire des participants des acteurs structurants de la consolidation de la démocratie en RDC. Le coordonnateur de cette organisation citoyenne explique que ce forum de 3 jours a également aidé ces leaders d'opinion à maîtriser les méthodes des planifications des actions de communication sur les réformes électorales à l'approche des joutes électorales de 2028. Luc Loutala s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour Monsieur Luc.
Bonjour Monsieur Blaise Ndongala.
La Simoncelle organise l'atelier des renforcements des capacités en faveur des leaders d'opinion. Pourquoi avoir organisé cette activité?
Notre pays patine, notre démocratie patine et l'opinion se façonne par la communication. Et nous nous sommes dit, la Simoncelle n'est pas le seul. Il y a tous les différents acteurs qui doivent communiquer, qui doivent interagir pour construire la démocratie et la citoyenneté. Mais on se rend compte que dans la communication, les gens ne maîtrisent pas les fondamentaux de ce qu'est la démocratie, de ce qu'est la gouvernance, la citoyenneté, la redevabilité, qui sont là les notions des bases sur lesquelles repose en réalité la solidité de la construction d'une nation qui avance. Et donc cet atelier vise à améliorer les connaissances des communicateurs, des leaders d'opinion dans ces notions des bases, afin de leur doter des outils qui leur permettent de comprendre non seulement exactement la température du pays tel que les choses se passent, mais aussi de les doter des outils, des communications qui correspondent exactement à la démocratie que nous voulons construire.
Quelles sont les différentes thématiques retenues?
Alors les thématiques vont être totalement basiques. Premièrement, c'est la démocratie. Il est important qu'on connaisse c'est quoi la démocratie, parce que après les gens se disent « Oh, la démocratie est impossible ». La démocratie n'est pas impossible, ou alors il faut la tuer carrément. Mais l'autre notion de base, c'est la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? On a des citoyens qui ont élu des représentants, mais qu'est-ce qu'on attend de ces élus? Donc on va toucher à la redevabilité. Et à part la redevabilité, il y a la citoyenneté elle-même. Vous voulez savoir, même si on prenait toutes les autorités et qu'on leur donnait 80% de la sagesse, si la population ne s'assume pas comme une population des citoyens, ces gens-là ne joueront pas leur rôle. Et donc il est important aussi de maîtriser qu'est-ce que le citoyen, quel est son rôle dans un pays et d'aider les communicateurs à communiquer là-dessus.
Alors qu'est-ce que vous attendez de la part des citoyens congolais?
Le citoyen doit se libérer, devenir des véritables citoyens. Ça veut dire le citoyen est l'opposé de l'esclave. Le citoyen est celui qui réclame des gens qu'il a élus qu'ils fassent leur travail. Le citoyen n'est pas passif. Le citoyen, c'est le chef. Le citoyen, c'est le souverain primaire. Le citoyen, c'est le patron de l'État. Et donc, il est temps que ce citoyen, le citoyen congolais, apprenne exactement que c'est lui, le patron, qui doit demander des comptes à ceux qui dirigent. Et ce travail est à faire par toutes les parties prenantes, nous de la société civile, les médias, comme les leaders d'opinion.
Quels ont été les choix des critères des participants à cet atelier?
Les choix ont été très diversifiés. Ça veut dire non seulement vous avez la représentation des acteurs de la société civile, des partis politiques de l'opposition de la majorité, des médias, mais aussi des jeunes, des femmes. Donc, nous avons vraiment tenu compte de tous les critères qui permettent d'avoir un peu plus une représentation cosmopolite et totalement représentative des différentes couches de ceux qui communiquent.
En marge de cet atelier, avez-vous un message à lancer à tous les Congolais qui vous suivent sur les médias?
Congolais, si vous n'êtes pas citoyen, nous allons perdre notre pays. et nous allons être esclaves. Congolais, vous êtes souverain, le souverain primaire consacré par la Constitution de la RDC. C'est à vous de vous assumer pour aider les gouvernants à jouer leur rôle en ayant la pleine conscience qu'ils ont affaire à des citoyens.
Monsieur Luc Lutala, nous vous disons merci.
Merci à vous, Monsieur Blaise.
Ainsi s'achève ce journal coordonné par Jude Mystère, Bilinda et Richard Junior Kamunga. Pierre Diassinois, la mise en onde, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter sur notre site internet radiocapi.net.